Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
L'orgue, instrument mystérieux et attachant, cumule les superlatifs. C'est le plus grand, le plus puissant, le plus cher.
RTL.
Sa complexité exerce une certaine fascination et éveille la curiosité.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes croyant ou pas, ça n'a pas d'importance. Si vous avez déjà assisté à une messe de Noël, un mariage dans une église ou un enterrement, vous l'avez sûrement croisé, aperçu, entendu. Ce soir dans la curiosité, on vous fait découvrir le quotidien d'un organiste liturgique. Bonsoir Bertrand Ferrier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Sacré nom ça, organiste liturgique, on va le décoder tout de suite. Vous jouez de l'orgue?
Oui.
Vous êtes donc ça un
arrive.
Musicien.
Ça arrive. Exactement.
Ça arrive. Et c'est un métier ou un loisir?
Alors c'est un métier. En fait, à la base, c'est une tâche, une mission. Et après, si on gagne assez d'argent pour que ça devienne un métier, ça devient un métier.
Ça veut dire quoi, c'est une tâche, une mission? Une mission, ça veut dire que vous êtes, par exemple, croyant et votre mission, c'est de jouer des chants liturgiques?
La tâche, la mission de l'organiste liturgique, c'est d'accompagner la liturgie. Donc les célébrations, que ce soit des messes, des mariages, des enterrements, des baptêmes. Donc il a une tâche. Après, l'essentiel des organistes qui jouent dans nos églises en France et ailleurs, ce sont des amateurs. Et il y a quelques gens dont c'est le métier.
Donc vous, vous êtes professionnel.
Donc moi, c'est mon métier, ouais.
Et alors vous sortez un livre qui, aux éditions Max Milo, L'homme qui jouait de l'orgue, et vous y écrivez, je vous cite, hein, « Jouer de l'orgue ne sert à rien et l'organiste n'a aucun sens ». C'est pour ça qu'on s'est permis de vous présenter comme ça tout à l'heure.
Mais vous avez bien raison, je revendique l'inutilité. Évidemment. En fait, on vit dans une société où tout doit être utile, et je pense qu'on peut opposer l'inutilité et la médiocrité. C'est-à-dire que la médiocrité, c'est tout ce dont on a besoin et qui est absolument essentiel. Et puis il y a l'inutile qui fait la beauté de la vie, le plaisir, la joie, et j'espère que l'orgue en fait partie.
Bertrand Ferrier, comment vous êtes devenu organiste liturgique? Comment vous avez eu cette idée, cette envie?
Un jour, concrètement, il n'y avait personne à l'orgue, et je me suis dit, c'est trop con, c'est très beau, il faut que je monte, il faut que je squatte la place. Voilà. Et
petit mais vous saviez jouer du piano quand même?
Je savais jouer du piano, et j'ai pris des cours d'orgue, et petit à petit, en fait, il s'est trouvé que de temps en temps, je gagne plus d'argent en traduisant des livres, en écrivant, en donnant des cours à la fac, et là, depuis quelques années, c'est plutôt en jouant de l'orgue, donc c'est devenu mon métier, et ça me donne cette toute petite légitimité, mais dont j'ai bien profité pour raconter la vie d'un organiste et raconter un peu comme un insider dans l'église, qu'est-ce qui se passe en backstage.
Alors justement, il y a une concurrence dans le milieu des organistes liturgiques, vous êtes nombreux.
Oh, pas plus que dans le milieu des journalistes, vous savez bien.
Ah bah alors tout va bien.
Exactement, c'est un
monde
merveilleux.
C'est les bisounours alors.
C'est bien au-delà,
oui. Il y a de la place pour tout le monde.
Exactement, dans le royaume de Dieu encore plus, mais mais il n'y a pas des orgues pour tout le monde, il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de bien faire son travail, un peu comme partout, et pour que ce soit rigolo, sympathique, enthousiasmant, et si possible que ça élève l'âme de ceux qui vous écoutent.
Voilà, vous ne servez pas à rien, Bertrand Ferrier. Mais est-ce que vous êtes
Merci.
Est-ce que vous êtes lié à une église en particulier, à un lieu en particulier?
Alors moi, je suis titulaire d'un orgue à Paris, à côté de la place de Clichy, qui s'appelle Saint-André de l'Europe.
Dans le 18e arrondissement de Paris.
Presque, dans le 8e, mais c'est à la jointure, donc c'est presque juste. Et je joue également dans toutes les églises où on m'appelle, et notamment à la collégiale de Montmorency. Et ça, c'est très important pour un organiste liturgique professionnel, c'est d'avoir déjà une base, c'est-à-dire un lieu d'ancrage.
Vous écrivez que l'organiste peut être un rockeur ambitieux. Pourquoi vous dites ça?
Alors l'organiste, c'est hyper rock'n'roll. En fait, on a l'impression qu'organiste, c'est chiant, c'est poussiéreux. Mais, pardon, j'avais dit que je ne dirais pas de gros mots, je l'ai dit. C'est en fait le contraire. À une époque où l'église catholique paraît la plus ringarde possible, vous, vous êtes avec l'instrument le plus puissant du monde, vous n'êtes pas le guitariste qui va faire se lever un stade, mais vous pouvez être quelqu'un qui va bouleverser des gens, et les gens le sauront juste à l'arrivée.
Et vous pourriez jouer ça à l'église?
C'est un petit groupe, retour, c'est les Doors.
Ah, vous n'avez pas le retour, c'est les Doors.
Alors,
Light my fire.
On nous demande parfois des choses singulières.
Il faut allumer la lumière. C'est l'une
on
des
peut allumer le feu. On me l'a demandé. On m'a demandé aussi Highway to Hell pour introduire un mariage. Voilà, on peut nous demander siffler en travaillant pour quelqu'un qui sort lors de son enterrement. Donc on peut demander des choses rigolotes.
Ouais. Libre, Bertrand Ferrier, de jouer ce que vous voulez à l'orgue, même au sein d'une église?
Non. Alors quand c'est quelque chose de polémique, je demande au curé. Si le curé n'y voit pas d'inconvénient ou au prêtre, c'est son problème. Moi, je joue. Et si si moi ça m'amuse, voilà, une fois que j'ai l'autorisation de jouer, j'y vais, c'est rigolo. Je préfère jouer des beaux morceaux, mais je viens de la pop, j'y retourne, j'adore chanter, j'adore accompagner, j'adore le hard rock, donc si j'ai toutes les bénédictions du monde pour cela, allons-y et déconnons ensemble.
Est-ce que les organistes ont posé des questions, bête aussi, hein, ont un look?
Ah, souvent, c'est pas sexy, un organisme. C'est rare que ce soit sexy. Je suis content que vous posiez la question, comme ça, on peut croire que moi, j'ai un look sexy. Non, c'est rare.
Vous êtes pas mal, vous avez une chemise violette boutonnée presque jusqu'en haut, un catogan.
Ouais, j'ai fait un effort,
roux, blond.
Vous saviez qu'il y avait Sidonie, c'est pour ça.
C'est ça.
Qui vous tombe en cascade sur le dos. Des lunettes.
Ouais, des lunettes, bah ça souvent c'est des organismes. Les organismes sont souvent vieux, donc ils ont besoin, ils sont bigleux. Non, c'est pas vrai. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui ont souvent beaucoup plus de talent que les vieux.
Quel âge?
C'est ça le problème. J'ai 38 ans.
Ouais, vous êtes très jeune.
Et oui, et vous avez commencé à quel âge à jouer de l'orgue? Parce qu'effectivement, on a plutôt l'image d'un organiste un peu vieillissant derrière son instrument. Vous avez commencé à quel âge?
Ça fait 25 ans que je massacre des orgues et j'essaie de les massacrer en toute bonne humeur.
Oui. Vous avez un orgue chez vous pour vous entraîner?
Non, c'est aussi l'avantage d'être titulaire, c'est qu'on peut l'avoir dans des conditions nettement meilleures. Mais j'espère qu'avec toutes les ventes de ce livre, je pourrai m'acheter un énorme hôtel particulier dans lequel je pourrai installer un énorme orgue. Et donc la prochaine fois, je répondrai oui à votre question.
Bah, j'espère que votre passage dans la curiosité vous aidera un petit peu. Alors, en tout cas, que joue un organiste qui choisit les chants, les musiques et à quelle occasion?
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieuses et aux curieux qui nous rejoignent sur RTL. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 22h. Dans l'ordre, c'est mieux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour des récits d'histoires encore incroyables, de rencontres pas possibles que seul dans la curiosité on peut faire. On va vous raconter par exemple les secrets des voix.
Ben oui, la vôtre.
La voix, la mienne, la vôtre.
Celle des imitateurs,
celle des
nourrissons.
Enfants, celle des bébés.
Le premier cri, tiens.
Est-ce qu'elle révèle de notre personnalité?
On verra bien.
C'est au 3e siècle avant Jésus-Christ que Ctésibios invente le premier orgue appelé hydrôle, car l'air qui permettait de faire sonner les tuyaux était comprimé par une cloche contenant de l'eau. Cet instrument, commandé par un clavier, avait une sonorité puissante et était apprécié dans les amphithéâtres.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invité Bertrand Ferrier est organiste liturgique depuis 25 ans et il nous raconte son quotidien.
Mais heureusement, il est un peu plus dynamique que le monsieur qui nous expliquait l'histoire de l'orgue dont on vient de récupérer.
Il nous a tué.
Une archive grâce à André Facetta. Il avait dû prendre un médicament un petit peu ramollissant ou fumer quelque chose.
Organiste depuis 25 ans, vous avez 38 ans, mais vous avez commencé super jeune.
Oui, mais souvent, les musiciens commencent jeunes. En fait, les plus grands musiciens sont déjà des virtuoses confirmés à 13 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge où j'ai commencé, la plupart sont déjà des hyper vedettes.
Vous étiez en retard, quoi.
Donc, je suis un retardataire.
C'est quoi le répertoire classique d'un organiste liturgique? C'est-à-dire qu'il joue à la messe, pour les
Voilà,
pour les
c'est ça. Il joue à la messe. Et en fait, on va peut-être faire le point juste parce qu'on emploie ce terme. En fait, j'oppose l'organiste virtuose qui est là au grand orgue, vous savez, dans les grandes églises, et qui est essentiellement là pour jouer des grandes pièces d'orgue, et l'organiste liturgique qui joue parfois exactement ce type de morceaux, mais qui joue essentiellement des petits bouts de morceaux pour pas que ce soit trop long, pas trop fort, et qui accompagne des chants. Voilà. Et donc l'organiste liturgique, il essaye de monter quand même le niveau pour que ce soit beau, que ce soit prenant, que ce soit bouleversant, et parfois il lutte, et le livre raconte cette lutte.
Et pourquoi il y a une lutte entre le son qui monte et la sauce qu'il doit prendre dans l'église?
En fait, il y a une lutte entre deux idées.
Ouais.
L'idée de l'organiste, c'est souvent que la belle musique
prime.
Aspirera tout le monde vers le haut. Et l'idée de certaines formes de liturgie, c'est que plus c'est con, plus ça va plaire. Et donc, si on propose de la musique débile aux gens, ils vont être contents et donc ils vont venir à la messe.
Mais c'est quoi la musique liturgique débile? C'est la danse des canards version orgue?
Ouais, on peut en trouver. Et je donne des exemples, alors pas pour la musique parce qu'on pouvait pas mettre de partition, mais de textes particulièrement ineptes. Et donc le but de l'organiste, c'est de dire très bien, ça c'est la base, et comment on va essayer de faire en sorte que vous soyez contents puisqu'on va jouer cette base, mais en même temps d'essayer de monter un peu le niveau pour que pour que ce soit beau, en fait.
Bertrand Ferrier, vous publiez L'homme qui jouait de l'orgue, c'est un très beau titre, c'est aux éditions Max Milo. On se posait la question, c'est votre métier, vous faites des sortes, vous allez d'église en église, vous faites différents concerts, vous en vivez, vous êtes payé combien pour ce métier?
Normalement, je retourne la question. Je demande vous combien vous êtes payé pour cette émission, mais je vais quand même répondre
Non, non, c'est vous qui répondez.
Je suis payé 600 euros en fixe pour jouer 3 messes par week-end, plus des messes d'obligation. Donc en gros, 56 fois, 3 fois, pour 600 euros par mois. Et le reste, c'est payé par cachet, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille jouer des enterrements, des mariages, des baptêmes supplémentaires. Et à chaque fois, il tombe environ 50 euros. Je laisse les mathématiciens qui nous écoutent faire le calcul pour savoir combien il faut travailler.
Mais vous pouvez en vivre. Clairement, vous pouvez vivre de...
On retombe sur la lutte. Struggle for life. C'est pas une chanson des Doors, mais
qui,
ça pourrait.
Qui vous paye? Qui vous embauche, Bertrand Ferrier?
À la base, c'est donc quand on est organiste quelque part, on est payé par le diocèse ou par la paroisse, et après on est payé par la paroisse qui est financée elle-même par les familles pour tout événement exceptionnel. Dans le bon temps, on était payé directement par les paroisses, mais Dieu soit loué, le black a totalement disparu dans notre bonne société française.
Ah, c'est bien. C'est vous avez des papiers officiels.
On y croit. Hein.
Et vous êtes un organiste populaire, c'est-à-dire qu'on s'arrache Bertrand Ferrier pour un enterrement ou pour un mariage?
Vous avez vu la queue qu'il y a dehors, non?
On essaie de les repousser, c'est assez dur.
C'est très difficile. Non, on est des petits organistes. Mais on essaye de... Je dis « on » parce que le livre raconte pas juste ma petite vie, parce que ma petite vie, c'est pas très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe quand t'es organiste? Qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes l'organiste? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas voir l'organiste aussi? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les familles puissent aussi s'imaginer comment ça se passe, quels sont les échanges qu'on peut avoir. Des beaux échanges, parfois des échanges pourris, parfois des échanges agressifs, mais parfois des beaux échanges. Et le but, c'est toujours de monter vers le beau. Et ce livre essaye d'expliquer comment, dans les réalités, soit joyeuses, soit tristes, on peut passer par le beau.
Mais comment? Alors,
soit pour Dieu, soit pour s'échapper de la réalité.
Comment on atteint ce beau, alors?
Oui. Ça se négocie, le beau, avec une famille qui prépare, une messe de mariage.
Le problème du beau, c'est qu'on le voit souvent comme chiant. C'est un peu comme l'organiste. À la base, c'est pas très intéressant, un organiste. Et en réalité, on essaye de montrer que le beau peut être plaisant. Alors, le plaisant, ça peut être de réentendre un morceau qu'on connaît. On m'a demandé, juste avant que je vienne, la prière de Georges Brassens. Voilà, on peut la jouer. C'est pas choquant. C'est un texte de Francis Jammes. Hein. Mais on peut dire aussi, mais vous savez, on a un instrument qui est spécial, qui peut faire des sons spéciaux. Et que c'est parfois, il vaut mieux jouer des morceaux pour orgue que la Solitudine de Laura Pausini.
Alors justement, quelle est la différence entre le piano et l'orgue ?
Le piano est un instrument à cordes frappées. Ça veut dire que vous produisez un son, il disparaît presque tout de suite. L'orgue, c'est un son, c'est de l'air qui passe dans des tuyaux, comme une flûte, mais sauf qu'il y a beaucoup de flûtes en même temps. Et du coup, tant que vous appuyez sur la touche, le son reste. L'orgue a une autre particularité, c'est qu'il peut produire des sons très différents. Des sons très puissants, des sons très doux, des sons qui vibrent, des sons qui modulent, qui ondulent. Et l'orgue a cette particularité qui peut permettre d'exprimer tout un tas d'émotions.
Et il y a des touches noires et blanches?
Ça ressemble... En fait, vous avez un clavier, ou 4, ou 5, ou quand tout va bien. Et puis vous avez un pédalier, c'est-à-dire un clavier pour les pieds. D'où le nom de pédalier. Et puis vous avez des petits bidules à tirer. Et selon les bidules que vous tirez, vous utilisez tel ou tel type de tuyau, donc ça fait tel ou tel type de son. Et l'organiste, malin, c'est celui qui réussit, quelle que soit la grandeur de l'orgue, évidemment les gros c'est magnifique, mais même sur les petits, à faire passer de l'émotion, que les gens adorent l'orgue ou que ça les fasse chier a priori.
Ça veut dire qu'il faut être très coordonné, alors c'est vrai pour les pianistes d'une manière générale, mais là vous utilisez les deux mains, les deux pieds, on imagine un peu comme Shiva, comme notre Diane qui est capable de répondre au téléphone, sur internet et sur les réseaux sociaux en même temps.
Mais c'est la première fois que vous avouez qu'effectivement votre Shiva à nous c'est l'organiste.
Non mais c'est vrai, c'est compliqué parce qu'un grand orgue, vous êtes petit face à un instrument comme celui-là. Comment ça se passe?
On est minuscule devant.
Vous êtes debout, vous êtes assis.
On est obligé d'être assis puisqu'on joue avec les pieds aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc normalement, sauf si on a quatre pieds, mais moi c'est pas mon cas, on est obligé d'être assis.
Bertrand Ferrier, il y a plusieurs types d'orgues. Vous parliez des grands orgues et puis des plus petits orgues. Et dans la catégorie des petits orgues, est-ce qu'il y a plusieurs genres d'orgues? C'est-à-dire que vous devez vous adapter à chaque fois que vous allez jouer dans un endroit, dans une église, ou alors c'est tous les mêmes?
Vous avez raison. C'est une des particularités de l'orgue par rapport au piano, c'est qu'aucun orgue n'est le même. Certains se ressemblent, certains ont un clavier, d'autres 2, 3, 4, 5. Certains ont beaucoup de jeux, c'est-à-dire de sons différents, d'autres en ont que 2, 3. mais chaque orgue est différent et le principe de l'organiste itinérant, c'est-à-dire qui va bouger, qui va aller dans des églises différentes, c'est de pouvoir s'adapter d'un claquement de doigts. Et alors, il a quand même une particularité, j'ai gardé un gag, il est visuel mais il est sonore aussi pour tous les auditeurs.
Ça, on peut aller sur rtl.fr où bien sûr on voit l'émission.
Voilà, alors en fait le gag, c'est le trousseau de clés. Et ça, en général, les organistes ont des trousseaux de clés importants puisqu'il leur faut une clé pour ouvrir l'église, il faut une clé pour sortir de la sacristie, il faut une clé pour rentrer dans l'escalier qui va mener à l'orgue, il faut une clé pour rentrer à l'orgue, il faut une clé pour l'orgue. Voilà, et c'est pour ça qu'on a ce genre de petits trucs qui montrent qu'on est organiste. C'est pour ça que je les ai gardés pour crâner un peu.
C'est la preuve. C'est vrai que c'est l'instrument le plus puissant, l'instrument de musique le plus puissant, il n'y a pas d'équivalent?
Alors, il y a des orgues tellement puissants qu'ils ont pété les vitraux. C'est arrivé aux États-Unis, ils ont construit des orgues tellement, tellement spectaculaires que les vitraux n'étaient pas conçus pour résister au souffle et aux décibels que ça produisait.
Alors moi, j'ai une curiosité et on va y répondre dans quelques instants. C'est comment on monte là? Parce qu'à chaque fois, j'ai la tentation d'y aller, mais c'est fermé, comme vous dites. Donc, il y a quoi? Il y a un tout petit escalier.
Vous n'avez pas les clés, elles sont là. Je vais discrètement les prendre.
J'allais les piquer. Allez, on va grimper en haut de l'église pour accompagner l'organiste.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir dans la curiosité, Bertrand Ferrier, organiste liturgique, nous dévoile tous les secrets de son métier. Alors vous qui avez sans doute assisté à une cérémonie religieuse une fois dans votre vie, vous êtes dit, mais comment on arrive tout là-haut, là où il y a l'orgue et le monsieur qui joue? Bertrand Ferrier, comment on fait?
Alors c'est le miracle de l'organiste. Même moi, quand j'étais pas organiste, je me demandais mais comment il fait pour arriver là-haut.
Faites de l'escalade, c'est ça?
Alors normalement on ne va pas le dire, mais on va quand même en dévoiler quelques secrets. C'est l'escalier qui monte. Souvent il y a une porte quand même parce que l'organiste est rarement téléporté par lui-même.
C'est quand même un humain. Esprit
saint. Il est obligé de passer par un escalier. Cet escalier, rien que le fait d'y accéder, c'est déjà un passage. Et après, il y a souvent une deuxième porte avant d'accéder à la tribune, c'est-à-dire à l'endroit où est l'orgue. Ce qui fait que quand tu passes ces deux portes, tu es vraiment devenu l'organiste. Tu as quitté le commun des mortels pour devenir l'organiste.
Et vous êtes intouchable, c'est-à-dire que personne ne peut injoignable, personne ne peut vous rejoindre, vous êtes tout seul?
Alors, le but, c'est qu'on soit tout seul le plus possible, sauf dans des cas exceptionnels, mais que nous ne dévoilerons pas à cette heure de grande écoute. Mais
allons bon.
Oh, attendez.
Bah, il s'en passe de belle.
Oh,
il faut quand même que les gens achètent le livre, non? Donc voilà, là, on a une bonne occasion. Mais à part ça, sinon, on en met beaucoup de temps à dresser un bon auditeur de tribune. C'est-à-dire que quand l'organiste est à l'orgue, on a l'impression qu'il ne fait rien la plupart du temps. Le vrai travail de l'organiste, c'est attendre que ce soit le moment de jouer, mais il est tout le temps en train d'écouter ce qui se passe. Donc il peut boire une bière à un moment, mais lui seul sait qu'il y a un mot qui va déclencher le fait que ça y est, c'est le moment de donner une note, un accord. Et la capacité d'un auditeur, d'un accompagnateur à se taire au bon moment est très difficile à élever.
En fait, ça veut dire que vous êtes organiste et que vous formez un groupe avec le prêtre, par exemple?
Alors il y a le prêtre, il y a les chantres. Alors les chantres, on appelle ça les animateurs de chant ou les batteurs de mayonnaise. Et il y a
les batteurs de mayonnaise.
Ah ouais, ils battent la mayonnaise pendant que je fais le petit geste pour voilà. Tous ceux qui ont la vidéo.
Comme un chef d'orchestre, mais
exactement. Voilà. Ils animent l'assemblée. Alors le terme animé est pas bon, donc voilà. Mais globalement, c'est ça. Ils attirent l'assemblée vers le chant quand tout va bien. Il y a ceux qui préparent, il y a le secrétariat. Il y a beaucoup de monde qui travaille derrière, backstage, et qui permet que nous, on puisse venir travailler dans les églises.
Mais vous faites des répètes, Bertrand Ferrier? En tant qu'organiste, vous répétez pour justement pouvoir faire la bonne note au bon moment, le bon chant au bon moment?
Alors en fait, ce qu'on paye dans l'organisme liturgique, c'est le savoir-faire et l'habitude. Donc ça, il n'y a pas besoin de répéter, parce qu'il y a eu tellement de répétitions, il y a eu tellement de cérémonies. Moi, je calcule que je fais environ 300 cérémonies par an. Donc globalement, ça va sur les cérémonies que je connais, ça pose pas de problème. En revanche, ça se passe jamais comme c'est prévu. C'est-à-dire que dès qu'on change de paroisse, ça peut changer d'habitude. Dès qu'on change de rite, ça change. Dès qu'on change d'endroit, ça bouge. Rien n'est totalement pareil. C'est pour ça qu'on n'est pas tellement en concurrence avec des CD. Parce que le CD, il ne pourra jamais anticiper comme un bon organiste en état normal de fonctionnement.
qui n'a pas bu trop de bière dans son perchoir.
Si vous parlez du CD, j'imagine c'est parce que c'est quand même un concurrent, que dans certaines églises on l'utilise à la place de l'organiste, c'est ça?
C'est un concurrent. Avec lui, il y a le silence, il y a le « c'est pas la peine que l'orgue joue ».
Vous l'entendez ça parfois?
Ah bah bien sûr, je veux dire, chaque fois qu'on sait qu'il y a une cérémonie et qu'il n'y a pas d'organiste, on entend le silence et on l'aime pas beaucoup, c'est notre ennemi.
Comment ça marche? Tiens, tout simplement, Gérald Chaland, le producteur de l'émission, disait, mais comment l'air arrive dans l'orgue?
Alors, le principe de l'orgue, c'est très simple. Il y a, les tuyaux sont des espèces, pour la plupart, des flûtes à bec. Donc, il faut qu'il y ait de l'air qui passe et qui soit déclenché. L'air est produit, à l'époque, par quelqu'un qui pompait. C'est pour ça qu'à la fin des messes, parfois, on entendait l'organiste se faire insulter par quelqu'un qui était à l'intérieur de l'orgue et qui pompait et qui n'en pouvait plus parce qu'il est.
Mais non.
Il y a quelqu'un à l'intérieur de l'orgue.
Bah, qui pompait. Il faut bien pomper pour produire l'air. Alors maintenant,
qui était épuisé et à la fin de la messe.
Esclaves, malheureusement.
Parce que
ça permettait de les humilier. Je veux bien les noms. Il n'y a plus d'esclaves, mais il y a de l'électricité qui produit de l'air, qui l'envoie dans une réserve. Et ensuite, la réserve va dispatcher, répartir l'air dans les tuyaux qu'on veut.
Vous disiez 300 cérémonies par an, c'est ça, peu près? Donc, ça fait presque tous les jours, ou 2 jours sur 3, ou 3 jours sur 4. Vous baladez dans toute la région parisienne
partout
en permanence?
Partout, on m'invite, mais essentiellement autour des paroisses où j'ai l'habitude de travailler. Par exemple, samedi, je ferai 4 cérémonies. Mais le problème pour l'organiste, c'est qu'il a l'impression de devenir professionnel quand il peut investir sur un pass Navigo.
Alors pour les non-parisiens, c'est ce qui permet de circuler dans plusieurs zones, dans tous les transports en commun.
En Ile-de-France.
Permission de circuler en Ile-de-France, c'est quand même 2 équivalents en messe. Donc ça veut dire que vous allez travailler 2 messes pour payer vos transports. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler encore plus.
Et vous calculez tout comme important. Ça en équivalence chez les organismes?
Ça devient un réflexe.
Par exemple?
Par exemple, hier j'ai fait un convoi, c'est-à-dire un enterrement, et le chantre, c'est-à-dire l'animateur des chants, a dit, moi je viens à cet enterrement et ça va me permettre de me payer une perceuse. Voilà. Parce que c'était l'équivalence de 50 euros pour se payer la perceuse. Ça peut paraître cynique, c'est pas cynique. Parce que ça veut dire clairement que le travail est aussi un travail et ça n'empêche
bien
pas qu'on ait fait le maximum pour que la cérémonie soit belle. Et effectivement, ce chantre-là avait beaucoup de talent, donc il a pas volé sa perceuse.
Est-ce que tous les orgues sur lesquels vous jouez dans les différentes églises, ils ont les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'ils s'allument de la même façon? Est-ce qu'il faut connaître leur petit secret en quelque sorte?
C'est la terreur de l'organiste. C'est quand il arrive, il a beau avoir fait des milliers de cérémonies, il sait très bien qu'il peut se ridiculiser en disant je sais pas comment j'allume l'orgue. Voilà, ça c'est vraiment.
Pourquoi ça s'allume et ça s'éteint comme un ordinateur?
Ça dépend, ça peut être un bouton, le bouton peut être caché derrière, il peut être dans un boîtier, ça peut être une clé qu'on tourne, qu'on ne tourne pas, qu'on enfonce, ça peut être plein de choses. Et vous savez jamais quand vous débarquez quelque part si vous allez réussir la première épreuve qui est quand même d'allumer l'orgue. C'est un peu comme si vous étiez champion de foot et que vous saviez pas si vous alliez pouvoir mettre vos crampons. Ça fout les boules.
Organiste, un métier sous haute tension alors.
Ça vous arrive d'improviser? Pendant une cérémonie.
C'est la base du métier d'organiste, en fait. L'improvisation, ça peut être soit quelque chose qui part totalement parce qu'on a décidé qu'on allait improviser sur un thème, sur un sujet. Par exemple, pendant un sermon, il pleut, il se met à pleuvoir énormément, on entend partout. Vous pouvez improviser sur Il pleut bergère juste après pour voir si quelqu'un écoute. Voilà, sans que
vous
ça
l'avez fait,
quelqu'un.
Ça.
Bien sûr, ça arrive. Vous voyez arriver un prêtre complètement bourré faire des annonces à la fin d'une messe. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver que l'organiste le soit, mais ça peut arriver que le prêtre le soit. Vous pouvez faire, viens boire un petit coup à la maison en sortie discrètement. Il ne s'agit pas de choquer les âmes.
Est-ce que vous avez déjà pris une claque à la fin d'une messe?
Il y a plusieurs façons de mettre une claque. La claque physique n'est pas la pire, sans doute, quand c'est votre boulot.
Mais ça veut dire qu'il y a des prêtres ou des gens qui viennent d'assister à la messe, qui vous critiquent, qui sont pas contents de ce que vous avez fait.
Je suis content de votre étonnement, mais oui, ça arrive qu'on me critique. On peut critiquer pour plein de raisons, qu'on n'aime pas, que c'était trop fort, qu'on est devenu sourd à cause de ça, que c'était pas exactement ce qu'on voulait, c'était pas assez religieux, c'était trop religieux, c'était chiant, etc.
Vous attendent à la sortie comme une rockstar. C'est ça?
Parfois, mais en général, quand on nous attend la sortie, c'est plutôt positif. Mais ça peut être aussi pour nous insulter ou pour dire au curé, simplement sans rester jusqu'à la sortie de l'organiste, que c'était nul.
Est-ce qu'on peut vous entendre bientôt venir vous écouter dans un concert en Ile-de-France dans les jours prochains?
Je serai aux Journées du patrimoine à Écouen, dans le Val d'Oise, à l'église d'Écouen, avec un chœur qui se produira. À 18h, ce sera le 20 septembre, aux Journées du patrimoine. Et ce sera un vrai défi intéressant pour tous ceux qui auront écouté cette émission, puisque l'orgue des Coins, qui est théoriquement un bel orgue, est dans un mauvais état. Et le défi de l'organiste, c'est d'arriver à faire de la belle musique, même avec un orgue qui ne marche pas si bien que ça.
Parce que ça doit coûter cher de rénover ou de réparer les orgues.
Parce que ça coûte hyper cher.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Bertrand Ferrier, vous êtes l'homme qui jouait et qui joue de l'orgue aux éditions Max Milo. À bientôt.
Merci, j'espère.
Vous écoutez RTL.